Ok, bah, bonjour à tous. Moi, c'est Mathilde. Je suis en deuxième année de thèse, encadrée par Laurent et Denis, ici présents. Et je vais vous parler de méthodologie pour évaluer la consommation énergétique du machine learning. Alors, pour commencer, je vais faire un peu un état de l'art de ce qui existe sur l'évaluation du machine learning. Pour commencer par les métriques de base qu'on trouve dans les ou pas dans les articles. Et après, d'un point de vue un peu plus large, au niveau du cycle de vie des infrastructures, et je vais finir par étendre à d'autres paradigmes de l'IA, donc le, ah, j'ai oublié de modifier, mais continuous learning et federated learning. Je crois qu'Anne-Laure a montré ce matin l'article qui essayait d'évaluer dans les articles d'IA quel article parlait d'énergie, et il y a vraiment très très peu d'articles qui en parlent. Alors souvent, pour évaluer donc le coût, on parle du nombre de paramètres, du temps d'entraînement et d'inférence, de la taille du modèle, mais cette fois en octets, et aussi du nombre d'opérations flottantes par seconde. Sauf que ça, c'est une très mauvaise image du coût machine et du coût énergétique. Et il y a même des études qui ont montré que ce n'était pas, même pas corrélé à l'énergie. Parmi ceux-là, peut-être celui qui est le plus intéressant, c'est la durée d'entraînement et d'inférence. Mais en fait, avec ça, on a aussi besoin de la machine utilisée et de l'utilisation de la machine. Donc, ce n'est même pas suffisant. Donc, ce qu'il nous faut, c'est la consommation d'énergie. Et ça, il y a quand même des articles qui en parlent. Et en particulier, depuis 4-5 ans, il y a pas mal d'outils qui sont sortis pour évaluer la consommation énergétique d'un entraînement d'IA. En parlant de ça, je fais une petite pub. Parce qu'avec Vladimir qui a parlé ce matin, on a fait une étude des outils qui existent pour évaluer la consommation énergétique d'un code, que ce soit CPU, donc ça c'était la partie de Vladimir, ou GPU pour moi. Donc on en a fait une comparaison. Dans les articles, on trouve aussi les émissions carbone. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'était des efficacités, soit en termes d'énergie, de temps ou de taille. Donc ça, c'est tout ce qu'on retrouve. Et moi, je me suis concentrée sur la consommation énergétique. Par contre, ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas que l'entraînement dans le cycle de vie de l'IA. On commence par récupérer des données, et souvent, c'est beaucoup de données. Et après, il y a quand même une grosse partie de traitement et d'analyse des images, des données. Plus général. Ensuite, il faut sélectionner un modèle. Donc souvent, on en teste plusieurs, on les entraîne, on trouve les hyperparamètres, on les valide. Après, on doit les déployer. Même après ça, on monitore les modèles. Et parmi tout ça, comme j'ai déjà dit, il y a une très faible partie qui est évaluée. Encore, c'est rare. Et étonnamment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais souvent, on a beaucoup étudié l'inférence, donc le déploiement du modèle, parce que en fait, c'est ce qu'on suppose qui va être fait souvent. Donc il y a beaucoup d'études là-dessus, il y a beaucoup de méthodes qui existent pour réduire la consommation énergétique au niveau de l'inférence. Pour l'entraînement, ça commence tout juste. Et si on regarde au niveau des infrastructures, alors, pour la collecte de données, on va avoir beaucoup plus d'équipements concernés selon là où la donnée elle est collectée. Donc ça peut être, là j'ai mis smartphone, caméra, sensors, autonomous cars. Ces données elles vont être transmises au centre de données, donc soit par filière ou sans fil, puis après elles vont être transmises par le réseau pour arriver au data center où les données vont être analysées et les modèles vont être entraînés et déployés. Donc là, si on revient au même schéma, on n'a encore qu'une seule petite partie qui est étudiée aujourd'hui. Et moi aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler aussi d'autres paradigmes. Donc le federated learning, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept, mais l'idée c'est de plus entraîner dans les data centers, mais plus proche des utilisateurs. Donc chaque utilisateur collecte ses données, apprend le modèle, entraîne le modèle, partage le modèle, seulement le modèle au serveur qui agrège le modèle et le renvoie aux utilisateurs. avec comme objectif donc de ne pas partager les données et de gagner en vie privée. Les challenges, donc, c'est qu'il y a beaucoup plus de communication, même si on suppose que le modèle est de taille inférieure aux données de base, on va devoir quand même faire un échange beaucoup plus intense. Et il y a aussi des challenges dans la performance de l'apprentissage, parce que les devices vont peut-être avoir des données qui ne sont pas identiquement distribuées, enfin, qui ne vont pas être similaires, ce qui va donc engendrer un biais dans le modèle. Et il y a un autre paradigme qu'on appelle continuous learning, dont le principe, c'est qu'en fait, le modèle, il ne va pas rester constant tout au bout de sa vie. On va réentraîner le modèle pour s'adapter aux nouvelles données qui arrivent. Et en fait, pour moi, on ne peut pas étudier un modèle de machine learning sans prendre en compte ça, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, en fait, un modèle qui va rester constant toute sa vie. On peut prendre l'exemple de ChatGPT. Il y a déjà une nouvelle version qui est sortie, alors que la première version était sortie en novembre, il me semble. Donc ça me paraît un bon exemple pour montrer que ça ne sert à rien de dire qu'on va entraîner qu'une seule fois, donc ça ne sert à rien d'étudier ça. En fait, on va l'entraîner toute sa vie, toute sa vie. Donc je me concentre là-dessus. Et donc si on reprend le schéma, on ne va pas faire qu'une seule fois de la collecte, on ne va pas faire qu'une seule fois du traitement de données, on va le faire tout le temps. Et si on reprend le schéma pour le federated learning, on suppose qu'on va ajouter un traitement plus proche de l'utilisateur, donc on va aussi rajouter peut-être des serveurs, et on va beaucoup plus utiliser le réseau entre le data center et les machines edge. Je voulais faire un petit point avant de passer à la suite sur les enjeux donc du federated learning et du edge computing. Donc l'idée à la base de transférer les traitements plus proches de l'utilisateur, c'était de réduire la latence et d'augmenter la vie privée. Donc si on prend un traitement qui est fait complètement à l'edge, on n'a pas du tout de latence et beaucoup de vie privée. À l'opposé du data center où on va avoir de la latence et pas du tout de vie privée, le federated learning, ça va être un petit peu un entre-deux. Donc il va permettre de réduire un petit peu la latence parce qu'on va quand même avoir du traitement, mais on va aussi on va quand même garder les données près de l'utilisateur. Bon, pour les transferts de données, bon, c'est pareil que la latence, on ne va pas en avoir du coup si on fait tout le traitement, mais on va quand même en avoir avec le federated learning parce qu'on va partager les poids et faire de l'agrégation au niveau des centres de données. Et au niveau de l'efficacité en puissance et en calcul, en fait, la réponse, elle est moins claire. Parce que, OK, si on fait le traitement complètement à l'edge, on va avoir une efficacité de puissance plus importante parce que les équipements ont été faits pour être faits pour ne pas beaucoup coûter en puissance. Par contre, ils ne vont pas forcément avoir les puissances de calcul qu'on a dans les centres de données. Donc, si on regarde l'énergie au final, en fait, la réponse, elle n'est pas claire et elle dépend de l'application. Donc c'est pour ça que je travaille là-dessus. Et donc le défi, c'est va être de choisir le paradigme qui aurait l'empreinte énergétique la plus faible selon l'application. Et donc je vais vous parler d'un article que j'ai trouvé très intéressant et sur lequel je vais me baser pour la suite de ma thèse. Donc cet article, il s'appelle An Energy and Carbon Footprint Analysis of Distributed and Federated Learning. Il compare donc le federated learning, de centralized learning, donc le calcul est fait complètement en centre de données, le federated learning où l'entraînement est fait dans les devices et les modèles sont agrégés en centre de données. Donc là, on voit déjà qu'eux, ils supposent qu'on a moins d'énergie en federated learning, donc ils supposent qu'on a moins de coûts en calcul parce qu'on est sur des équipements qui sont plus efficaces énergétiquement et on a moins de communication parce qu'on ne partage pas les données, en gros. Et il parle aussi de l'apprentissage complètement décentralisé, donc sans passer par un centre de données, mais moi je vais pas aller dans les détails. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un simulateur basé sur donc, le Power Usage Effectiveness du data center, sur le nombre de rounds, donc d'échanges de modèles qui est nécessaire pour entraîner les modèles. la taille du modèle d'entrée, la taille du centre de la base de données. Donc ça va être important dans les communications. Ok. dans les communications. Voilà. Si les données sont identiquement distribuées ou pas, c'est important parce que ça va augmenter le nombre de runs nécessaires pour atteindre l'accuracy visée. Donc si on se place dans un cadre continu, il va falloir considérer le nombre d'entraînements. On regarde aussi le nombre de learners qu'on sélectionne, parce qu'on ne prend pas forcément tous les devices qui existent. On regarde aussi l'efficacité énergétique des edge et du data center relatif, et aussi le type de transfert, parce qu'il suppose que... Donc je ne sais plus dans quel sens c'est, mais que le uplink est plus rapide que le downlink, plus efficace. Et à partir de ça, il donne des règles pour décider quel paradigme est le plus intéressant. Donc ça donne ce type de graphe, je ne vais pas avoir le temps de beaucoup détailler, mais pour eux, donc, les paramètres les plus importants, c'est le nombre de rounds et la taille du modèle et la taille de la base de données. Et donc ce qu'on voit, c'est en fait, si on veut... J'espère que je vais me tromper. Si on veut que le federated learning soit plus efficace, il faut soit diminuer l'accuracy voulue, soit diminuer la taille du modèle. Enfin, voilà. En gros, il faut limiter les communications qui sont faites. Ou l'inverse. Non, il faut augmenter les communications pour que le federated soit... Bon, voilà. Je n'ai pas le temps de détailler. Et du coup, il y a pas mal de... Pour moi, il y a pas mal de manques dans cette étude, et en particulier l'efficacité énergétique des calculateurs. Et c'est sur quoi j'aimerais me concentrer. Donc j'aimerais benchmarker la performance et l'efficacité énergétique des machines donc spécialisées IA pour l'entraînement, comparer donc, le federated learning et l'apprentissage centralisé dans un setting continuous, et établir des règles en fonction de l'efficacité énergétique. Et tout ça en basant sur des benchmarks d'IA, donc qui s'appellent ML Commons, qui sont plus diverses que seulement des modèles d'images, basés sur l'image. Donc là, j'avais mis des détails en plus, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Pour l'instant, j'ai ces machines-là à ma disposition. Donc il y a HPE qui va nous prêter leur nouvelle machine Champollion, qui a donc des machines très récentes pour l'IA. J'ai aussi à ma disposition un Jetson AGX Xavier qui est donc une machine qui est faite pour l'embarquer, pour l'entraînement d'IA, et une Coral Dev Board qui est faite pour l'inférence, donc qui est très très efficace énergétiquement pour l'inférence en IA. Et l'idée, c'est que je fasse des expériences et qu'au-dessus de ça, je fais des simulations pour évaluer l'impact du transfert de données, de la collecte de données. Voilà. Merci pour votre attention.
Merci Mathilde.